Il est 15h10 à Paris. On retrouve Michael Ponge et le journal d'Haïti et des Amériques.
Merci Juliette. Il est 9h10 à Port-au-Prince. Une accalmie précaire ces dernières heures dans la plaine du cul-de-sac au nord de la capitale haïtienne où plus de 9000 personnes se sont enfuies face à la guerre des gangs. Témoignage aujourd'hui dans notre rendez-vous. On sera aussi en Colombie, opération représailles après l'extradition d'Otoniel, le baron de la drogue. Notre dossier du jour nous amène en Argentine auprès d'enseignants qui aident les élèves décrocheurs des bidonvilles. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal de la première avec vous, Tiziana Maron, à la une, les commémorations du 6 mai en Martinique.
Oui, le 6 mai marque l'arrivée des premier indien dans l'île il y a 169 ans, une date capitale pour la communauté, vous l'entendrez.
A tout à l'heure, Tiziana, et bienvenue à tous.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Aucune explication n'a été donnée, mais après 12 jours d'affrontements sanglants dans la plaine du cul-de-sac, au nord-est de Port-au-Prince, avec leurs rivaux de chiens méchants, les membres des 400 Marozos se sont repliés dans leur fief de la Croix des Bouquets et un semblant de normalité est revenu. Un calme très précaire s'est installé, même si, bien sûr, les tensions restent extrêmement fortes dans toute la zone. Hier, toutefois, deux supermarchés, des dépôts alimentaires, des quincailleries ont ouvert leurs portes. Une première depuis le 24 avril, jour du début de cette guerre entre les deux gangs rivaux qui a poussé plus de 9000 habitants à fuir la zone, des départs précipités, comme l'ont raconté deux d'entre eux à Amélie Baron. Je précise que nous avons respecté leur souhait d'anonymat et nous avons modifié aussi la voix à sa demande de l'une de ces personnes.
Suivre frénétiquement les alertes qui circulent sur les réseaux sociaux, se terrer chez soi et guetter à l'oreille si les lignes de front se rapprochent. Fin avril, les habitants de la plaine ont vécu l'angoisse.
Pendant ces huit jours, les rafales de balles fusaient sans arrêt. Mais on pensait toujours que la police allait intervenir.
Vivant avec sa mère et ses deux frères, ce jeune homme pense être à l'abri dans leur maison, à proximité du carrefour Chada, au nord de Port-au-Prince. Mais dimanche matin, sa vie a brusquement basculé.
Je ne savais pas encore que les types avaient réussi à franchir le pont. Et puis j'ai entendu hurler « Ils sont arrivés à Chada ». J'avais déjà ma carte d'identité avec mon permis de conduire, mon badge de travail et ma carte d'assurance. J'ai seulement récupéré mon passeport et puis je suis sorti en courant. Parce que s'ils sont à Chada, ça veut dire à 30-40 mètres de chez moi.
S'enfuir sous les tirs, il ne pense alors qu'à une seule chose.
Ce que j'avais en tête, c'était d'aller le plus loin possible. Je n'avais aucun endroit où fuir. Pour vous dire, là où je suis actuellement, ça n'est pas là où je voulais aller. Mais en fuyant, en courant, puis en prenant une moto, on est arrivé à un endroit où on a pu réfléchir. On a appelé un ami qui habite la zone pour passer la première nuit. Et ensuite, on a pris une voiture pour aller ailleurs.
Lui et sa famille sont réfugiés chez un ami, sans savoir s'ils pourront un jour retourner chez eux. Mais tous ses voisins n'ont pas eu la possibilité de s'enfuir.
En tant qu'être humain, ça me choque. J'ai grandi ici. Je sais qu'il y a encore des personnes âgées, des personnes handicapées, aveugles. Il y en a une qui a eu la jambe amputée suite au séisme de 2010 et qui ne peut pas marcher. Ma chance, c'est que rien de tel ne me soit arrivé, que j'ai pu courir avec ma famille. Mais qu'en est-il des gens qui n'ont rien pu faire?
À quelques centaines de mètres de Chada, une autre famille a aussi longtemps attendu avant de se résigner à tout abandonner.
Il n'y avait plus de boutique ouverte, on ne pouvait plus trouver d'eau potable et puis on voyait les gens fuir la zone. Alors on s'est dit que le moment était venu de quitter la cour. La veille de notre départ, dans la nuit, je me suis demandé si j'allais pouvoir être sauvée tellement les gangs tiraient fort. J'avais l'impression qu'ils étaient juste derrière notre maison. Heureusement, on a réussi à s'échapper.
Le trajet de cette jeune femme n'a pas été facile. Il a fallu attendre parfois des heures que les tirs cessent pour continuer l'itinéraire vers un quartier situé au centre de la capitale, ce qui ne garantit malheureusement absolument pas d'être en sécurité.
Moi-même, personnellement,
je suis réfugiée dans la zone où je suis actuellement, pas parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème ici. Je ne suis pas assurée d'être à l'abri. C'est tout le pays qui est en danger, pas seulement Martissant ou la plaine. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas un officiel qui a prouvé qu'il voulait faire quoi que ce soit pour que ça change.
Cette inaction et ce silence assourdissant des autorités qui ne fait que pousser la jeunesse à l'exode.
Je n'ai jamais été quelqu'un qui disait « la solution, c'est partir à l'étranger, c'est là où on sera sauvé ». Mais maintenant, je n'ai que ça en tête, trouver un endroit pour sauver nos vies. Et ça n'existe nulle part en Haïti.
Amélie Baron. Port-au-Prince, RFI.
Et bonjour à vous, Marie Normand.
Bonjour.
Cette guerre des gangs qui fait encore naturellement ce matin les gros titres de la presse haïtienne.
Oui, guerre des gangs, kidnapping, la totale. C'est le titre en une du National ce vendredi. Le journal déplore que les appels à l'aide des habitants restent jusqu'ici sans réponse. Les autorités de l'État laissent visiblement pourrir la situation. En 10 jours, 10 enfants ont été tués, dont 6 en une seule journée, indique l'UNICEF, cité par le site d'Alter Press. Près de 1700 écoles sont actuellement fermées dans la zone métropolitaine. 500 000 enfants ont perdu l'accès à l'éducation. Et pour l'UNICEF, c'est l'avenir même de ces enfants haïtiens qui est menacé. Ils pourraient être recrutés par des gangs et payés à la semaine.
La presse haïtienne, Marie, qui s'arrête aussi aujourd'hui sur la nomination de Karine Jean-Pierre, nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche américaine.
À 43 ans, elle prendra ses fonctions dans tout juste une semaine. Elle multiplie les premières fois, écrit le Nouvelliste en Haïti, et incarne la réalisation du rêve américain. Karine Jean-Pierre a été élevée à New York par des parents haïtiens qui ont dû fuir la pauvreté et la dictature de Jean-Claude Duvalier. Et elle est parvenue à faire sauter le plafond de verre. Elle partage sa vie avec une journaliste de la chaîne CNN avec qui elle élève un enfant. « Je suis tout ce que Donald Trump déteste », résume-t-elle dans son autobiographie. « Femme, noire, gay, maman et mes parents viennent d'Haïti ».
Un profil sur lequel a tenu à insister hier Jeanne Saki, celle qui laisse le poste à Karine Jean-Pierre, car, dit-elle, cela compte.
Elle sera la première femme noire, la première personne LGBTQ+, à occuper le poste. Ce qui est formidable parce que la représentation compte. Elle sera la voix de tellement de gens, leur montrera ce qui est possible quand vous travaillez dur et rêvez grand. Cela compte et nous devons le célébrer.
Karine Jean-Pierre célébrée aussi, Michael, par Joe Biden, dont elle était une conseillère de longue date. Le président américain soutient qu'elle a l'expérience, le talent, l'intégrité nécessaire à ce poste difficile. Le Nouvelliste note que sa nomination intervient à un moment où la Maison-Blanche procède à plusieurs autres mouvements de personnel en prévision d'une éventuelle prise de pouvoir des Républicains au Capitole lors des élections demi-mandat. C'est au mois de novembre.
Ces midterms en tête, justement, Marie, c'est dans l'Ohio que se rend aujourd'hui Joe Biden.
Oui, à Hamilton notamment, où le président américain visitera une usine métallurgique, nous dit le Cincinnati Enquirer. C'est déjà le deuxième voyage du président dans la région, le cinquième dans l'Ohio, un état dans lequel Joe Biden a perdu, on le rappelle, de 8 points en 2020 et où J.D. Vance, un républicain tout juste rallié à Donald Trump, vient de remporter les primaires pour la sénatoriale du mois de novembre. Donc.
9h17 à Washington, la même heure à Montréal. Le Canada qui a déjà accueilli quelques 22 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre en Ukraine. Notre correspondant Alexis Gacon a rencontré Tatiana, membre de la diaspora établie dans le pays avant l'invasion russe, qui a décidé de transformer sa maison de Montréal pour accueillir des réfugiés.
Tatiana, d'origine ukrainienne par son père, vivait seule avec son mari dans leur maison de l'ouest de Montréal quand la guerre a éclaté. Maintenant, ça a bien changé. Elle loge 3 familles qui ont fui l'Ukraine.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.
Alors ici, on a une famille de... On a Yaroslav, on a Maxime, on a Eugenie.
Pour pouvoir les accueillir, Tatiana a lancé de grands travaux. Elle divise des chambres en deux car d'autres familles doivent bientôt arriver. Et
on a divisé ça en deux. Ça, ce sont des chambres qu'on a réservées pour les mères avec des petits-enfants.
Des enfants, il y en a quelques-uns ici, comme Sofia, 9 ans, qui veut retourner au plus vite en Ukraine pour retrouver son père qui combat là-bas. Maxime et sa famille, eux, veulent s'établir ici. En 2 jours, il a retrouvé du travail dans son domaine, l'installation de fenêtres.
Après avoir vécu pendant 4 jours dans un sous-sol, sans voir la lumière, sans l'eau, sans être capable de prendre une douche ou aller à la salle de bain, on est vraiment chanceux d'être ici.
Nourrir toute la maisonnée, c'est un gros défi. Donc les voisins de Tatiana se relaient pour lui fournir tous les jours un grand plat.
Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont généreux.
Alexis Gacon à Montréal pour RFI.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Du Canada à la Colombie, où l'extradition mercredi vers les États-Unis d'Otoniel, puissant narcotrafiquant du clan del Golfo, provoque des remous. Son groupe, Marie Normand, vient de lancer une opération de représailles.
Oui, 32 véhicules brûlés dans une vingtaine de municipalités. C'est la une d'El Tiempo aujourd'hui. Selon le journal conservateur, c'est Chiquito Malo qui serait à l'œuvre, l'un des lieutenants d'Otoniel. Il a ordonné de bloquer les routes, de faire pression sur les entreprises pour qu'elles n'ouvrent pas leurs portes, ordonné à la population de rester chez elles, ce que le clan du Golfe qualifie de grève armée. Dans 4 départements du Nord-Ouest, notamment celui d'Antioquia, où Semana explique que les autorités locales ont proposé une récompense de 10 millions de pesos, environ 2 300 euros, pour toute information sur les membres du cartel.
O'Donnell, qui a comparu hier pour la première fois devant un juge de New York, accusé d'association internationale de malfaiteurs en vue de fabriquer et distribuer de la cocaïne aux États-Unis. Il a plaidé non coupable. Prochaine audience le 2 juin, O'Donnell a demandé un procès avec jury. Cela nous ramène, Marie, aux États-Unis, à cette chasse à l'homme qui tient le pays en haleine. Depuis une semaine, un détenu est en cavale et c'est un fonctionnaire de sa prison qui l'aurait aidé à se faire la belle.
Vicky White et Casey White, ils portent le même nom mais n'ont aucun lien familial. Lui est qualifié d'extrêmement dangereux. Il purge une peine de 75 ans de prison. Elle était considérée comme une employée modèle et pour l'heure, comme le rappelle Alabama.com, plateforme qui rassemble plusieurs journaux de l'État, le shérif du comté avoue ne pas avoir la moindre idée de l'endroit où il se trouve.
I would like to emphasize that this case is now a major case for the United States Marshal Service.
Cette affaire est désormais une affaire prioritaire pour le United States Marshal Service, explique là son responsable en précisant qu'une récompense jusqu'à 10 000 dollars pourra être versée pour toute information conduisant à leur localisation, Marie.
Et les marshals ont rendu public des photos de Casey et Vicky White, explique Alabama.com, et même des simulations de ce à quoi Vicky pourrait ressembler aujourd'hui si elle s'était fait teindre les cheveux. Les internautes sont lancés à corps perdu dans l'enquête. Ils ont tenté surtout de retrouver la fameuse Ford 2007 de couleur rouille à bord de laquelle ils ont pris la fuite. Les autorités fédérales déplorent en revanche que le concessionnaire qui a vendu ce véhicule à Vicky White ait subi les foudres de ces détectives d'Internet.
Ça me rappelle un certain et une certaine Bonnie and Clyde. Merci beaucoup Marie Normand pour la presse.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Notre dossier du jour en Argentine, ce vendredi, où la longue fermeture des écoles à cause du Covid n'a pas été évidemment sans conséquence. Quelques 500 000 élèves ont décroché, ne sont pas revenus en cours. À Buenos Aires, des enseignants ont donc décidé d'aller les chercher pour les aider à remettre le pied à l'étrier. Chaque semaine, ils parcourent le barrio Mujica, le plus célèbre des bidonvilles de la capitale argentine. Théo Conscience a suivi une de leurs maraudes.
Il est bientôt 13h devant la gare de Retiro à Buenos Aires. Comme tous les samedis, des enseignants du collège Sarmiento se retrouvent devant l'entrée du barrio Mujica.
Beaucoup de nos élèves travaillent dans la construction du lundi au vendredi et également le samedi matin. Donc c'est l'heure à laquelle ils terminent de travailler et rentrent chez eux.
Rosy Damine est la coordinatrice du programme Intervention territoriale de tutorat, créé en 2016 afin de maintenir le lien avec les élèves qui vivent dans ce bidonville situé juste à côté du quartier cossu de Recoleta, où se trouve le collège.
Ce que nous allons faire, c'est aller rendre visite à des élèves qui, pour différentes raisons, ne viennent pas en classe. Donc nous allons toquer aux portes, marcher, nous perdre un peu et croiser des élèves du collège. Chaque samedi est différent.
Effectivement, alors que les enseignants s'enfoncent dans le dédale de rue étroite du bidonville, les têtes connues se multiplient.
Hola, Wally.
Ici, un ancien élève.
Hola.
Là, une jeune fille avec son bébé dans une poussette qui doit encore valider quelques examens.
Elle va pouvoir aller s'inscrire la semaine prochaine pour passer ses examens et terminer ses études.
Sébastien Rigueiro est professeur d'histoire et membre du programme.
On fait un suivi pour comprendre pourquoi ils ne venaient pas et pour voir si nous pouvons faire quelque chose pour eux.
Dans le cas de cette jeune maman, le collège propose par exemple un service de garderie.
L'idée est d'adapter les cours, les contenus, leur permettre de rattraper ce qu'ils ont raté avec des travaux personnalisés en fonction du cas de chaque élève.
D'une manière générale, les cours du soir que propose ce collège sont adaptés à la situation des jeunes du barrio Mujica, qui bien souvent travaillent ou doivent s'occuper de leurs frères et sœurs pendant la journée, quand ce n'est pas de leurs propres enfants. Fin 2019, la ville de Buenos Aires a voulu supprimer ses écoles nocturnes, mais a dû reculer devant la mobilisation de la communauté éducative. Le groupe d'enseignants poursuit sa route. Le quartier s'anime, certains font cuire de la viande devant leurs portes et de la musique descend des fenêtres. Une carte à la main, Rosy Damine essaye tant bien que mal de se repérer.
On cherche une élève, Catherine Martinez. Elle s'est inscrite au collège et elle a eu un accident au travail. Elle travaille chez McDonald's. Elle devait aller chez le médecin et depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc on va aller la chercher pour voir si on peut l'aider. Parce que les élèves qui ne peuvent pas aller au collège pour raison de santé reçoivent des travaux pratiques.
Cette fois, c'est Noelia Ceballos, professeure d'anglais, qui se charge de toquer aux portes. Avant de travailler à Buenos Aires, Noelia a longtemps été professeure itinérante dans la province de Catamarca, dans le nord-ouest du pays. 10 ans pendant lesquels elle allait chaque matin dans une école rurale différente, parfois en moto et parfois en stop. Elle en a gardé une conception très ample de son métier.
Je pense qu'en tant que professeur, on ne peut pas se contenter d'enseigner dans une salle de classe. Il y a souvent des situations très compliquées, des situations familiales qu'on ne peut pas résoudre, mais on peut faire en sorte que l'école vienne à eux.
Catherine Martinez n'est pas chez elle. Les enseignants ne la trouveront pas aujourd'hui, mais il laisse un message à sa famille. Et si elle ne rappelle pas, on reviendra la semaine prochaine sur Noelia en reprenant sa route. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et à Buenos Aires, il est 10h26.
Le journal de l'Outre-mer.
C'est avec vous, Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour, Michael.
À la une, la Martinique, où ce 6 mai est une date importante pour la communauté indienne du département.
Oui, le 6 mai 1853, il y a 169 ans, le premier contingent de travailleurs engagés foulait le sol martiniquais depuis l'Inde. En 30 ans, plus de 25 000 Indiens seront déportés par les colons français vers les plantations de la Martinique. La sociologue Juliette Esmeralda, d'origine indienne, milite pour la reconnaissance de son peuple. Elle revient sur l'importance de commémorer cette date au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique la Première.
Tout reste important. Moi, je vous rappelle que j'ai fait partie des personnes qui ont redonné leur dignité aux Indo-Martiniquais. Parce que justement, cette société qui est à deux poids, deux mesures, les traitait comme des torchons. La conception de l'arrivée des migrants ici, il était question de prendre des Indiens à la place des Noirs pour les opposer. C'était vraiment un travail de destruction de l'unité de peuples qui vivent les mêmes conditions finalement. Donc ce travail-là, il a été entièrement fait. Maintenant, moi, je m'occupe de cette partie de moi qui n'a pas été traitée. Et il est très important que nous comprenions qu'il faut que la société reconnaisse tous ces enfants et surtout ceux-là qui ont constitué la majorité de la main-d'œuvre et puis la plus grosse partie des fortunes des colons et des descendants de colons.
Et toujours en Martinique, le projet d'installation d'éoliennes dans la commune de Sainte-Marie a été revu à la baisse, à la grande satisfaction des riverains. Un collectif de citoyens s'était mobilisé pour dénoncer l'installation de plusieurs éoliennes au niveau de leurs habitations. À l'issue d'une réunion de concertation hier entre les porteurs du projet, les habitants et le sous-préfet, le nombre d'éoliennes à installer a été réduit de 13 à 4. En Guyane, la petite commune d'Awala Yalimapo, dans l'extrême nord-est du territoire, victime de l'érosion par la mer. Elle fait partie de la liste nationale des 126 communes du littoral menacées de disparition. Des politiques publiques spécifiques doivent être mises en place. Terence Moy, de Guyane la Première.
Vous voyez les bâtiments qui est là ? Là, la mer habitait là et puis ça a arrosé le bâtiment.
Daniel William, le chef coutumier du village, il se rappelle de l'eau qui venait s'engouffrer dans un petit canal au pied du bâtiment.
Ce n'est pas nous qui commandons. On peut jeter des milliards pour empêcher les vagues qui viennent. Un jour, ça va disparaître.
S'il est serein face à l'érosion qui grignote la plage depuis 2015, les habitants et les commerçants sont inquiets de la disparition progressive de leur plage.
Ça fait peur.
Une solution à court terme prévoit de réensabler la plage avec 40 000 mètres cubes de sable prélevés plus en amont. Tiffany Ariwanari est la première adjointe à la mairie d'Awala Yalimapo.
Il faut être là pour pouvoir freiner le phénomène.
Un déplacement des habitants qui dépend du banc de vase qui entoure la commune. S'il venait à disparaître, la plage pourrait retrouver son état d'avant le début de l'érosion en 2015, d'ici 3 ans, selon les études.
Un reportage de Terence Moy de Guyane, la première. Et c'est la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup, Tidjana Maron, à vous et aux équipes de la première. Merci à Claude Battista qui est à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui conclut une semaine riche en actualité. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. Très bonne journée à tous et bon week-end sur RFI.